continuons pour découvrir, dans la mesure du possible, parce que la nature ayant été abîmée par le péché, c'est évident que c'est la foi qui nous dit que le péché d'Adam se répercute. Je ne peux pas le dire d'un point de vue rationnel. Je peux dire qu'il y a eu un premier homme, forcément. Et que ce premier, comment s'est-il conduit ? Il n'y a aucun document. Tant que le péché d'Adam et d'Ève, c'est la foi. Et les conséquences de ce péché sur ses descendants, c'est la foi aussi qui me le dit. Alors, on est devant des problèmes difficiles à voir jusqu'où la nature créée par Dieu me permet d'avoir une éthique naturelle qui touche le point de vue de la virginité. On en a parlé la dernière fois. On voit qu'au point de vue religieux, ça peut exister. Puisque la personne humaine peut offrir à Dieu la possibilité d'avoir des enfants, puisque ceci appelle l'intervention de Dieu, l'âme créée par Dieu. Ça dépend de la philosophie, dire ça. La philosophie peut voir l'existence de l'âme et que l'âme ne peut être créée que par Dieu. Et que la dépendance radicale que nous avons à l'égard du Créateur peut réclamer cette offrande en hommage au Créateur. Et si ça exige sans doute une certaine contemplation, puisque la virginité, saint Thomas le dit, elle ne peut se vivre que en raison de la contemplation. Il ne faut jamais oublier ça. Les activités charitables ne peuvent pas donner une raison à la virginité. C'est vraiment la contemplation de Dieu. Donc, c'est offrir à Dieu ce que Dieu lui-même nous donne. La possibilité d'avoir une descendance, de ne pas l'avoir volontairement. C'est regarder la toute-puissance de Dieu et en hommage à la toute-puissance de Dieu. Reconnaître qu'on est dépendant de Dieu. Alors, ça peut exister en éthique naturelle, mais évidemment, ça ne peut exister, je crois, que d'une façon personnelle. Comme un hommage à Dieu. Alors, on peut poser le problème à la suite de ça, du sacrifice. L'attitude religieuse naturelle consiste à reconnaître que Dieu est le Créateur et donc on l'adore. L'adoration, c'est reconnaître que Dieu est le Créateur de l'âme. Les parents ne sont pas créateurs, ne sont pas pères et mère de l'âme humaine. Donc c'est reconnaître dans l'adoration une dépendance immédiate à l'égard de Dieu. Et ça ne relève pas de la foi. La raison humaine peut le prouver et peut le montrer. Et donc, il y a une possibilité de comprendre cette manière dont on veut s'unir à Dieu en reconnaissant qu'il est tout-puissant. Et pour proclamer cette toute-puissance de Dieu sur mon âme et sur mon corps, je peux lui offrir. C'est pour ça que ça a existé, du reste. Mais le sacrifice sanglant, alors là, c'est très, très difficile à préciser. Le sacrifice sanglant, qui existe en réparation aux fautes, à l'orgueil, au désir de dominer, qui est si connaturel à l'homme. Le désir de dominer d'une façon parfaite sur tout ce qui est autour de lui. Donc, l'offrande des animaux à Dieu, est-ce que c'est naturel ou est-ce que ça provient d'une volonté expresse de Dieu au point de vue surnaturel? Il y a là un problème qui a été débattu et qui peut revenir toujours. Parce que l'offrande sanglante des animaux, c'est reconnaître Dieu, autorité complète sur la vie. Mais pas uniquement reconnaître l'autorité de Dieu, c'est en même temps une réparation par rapport à l'homme qui veut dominer sur tout. Alors, l'adoration est naturelle. Le sacrifice d'animaux est-il naturel encore? Je pose la question. Parce que ou est-il une réparation de l'orgueil de l'homme qui veut dominer? Alors, cette réparation de l'orgueil de l'homme, l'homme naturellement peut constater qu'il a cette tendance d'orgueil, de se considérer comme un maître de la vie et de la vie par rapport aux animaux. Dans l'écriture, au point de vue révélation, on voit très bien, du moins on saisit comment l'offrande du sang des animaux peut réparer par rapport à l'orgueil de l'homme, pour reconnaître que Dieu est le maître souverain. Je crois que naturellement, l'homme peut considérer que l'orgueil de l'homme risque toujours de dépasser son pouvoir, de prendre la place de Dieu. Et pour lutter contre cette tendance d'orgueil, il offre à Dieu non seulement la prière et l'adoration, mais aussi l'offrande des animaux, puisque naturellement l'homme domine sur les animaux. Autrement dit, est-ce que la chasse est naturelle ? Ou la chasse est-elle un dominium de l'homme qui veut dominer sur le petit lapin, sur le lièvre, sur le faisan, sur l'aigle? C'est un problème très complexe. On ne peut pas y répondre trop vite. Je crois qu'on peut dire qu'il y a ce dominium de l'homme qui risque toujours d'aller trop loin. L'homme peut s'apercevoir qu'il est naturellement orgueilleux, pas uniquement comme conséquence du péché originel. Parce qu'il n'avait jamais été orgueilleux, il n'y aurait pas eu de péché. Évidemment, il s'était créé en état surnaturel. Mais il y a naturellement l'orgueil. Je crois que c'est ce point de vue naturel de l'orgueil, donc de l'insoumission à l'égard de Dieu, qui peut faire que l'homme offre des sacrifices à Dieu, par où il risque de dominer les vivants. Il demande à Dieu, par le sacrifice, de réparer, de contrôler cet effort, cette tendance qu'il a. Je crois que c'est par là qu'on pourrait creuser et voir combien il serait naturel d'offrir l'offrande des animaux, d'offrir le sang des animaux pour demander que l'homme reste humble, soumis à la volonté de Dieu. C'est de ce côté de la réparation. Les sacrifices sont des réparations. Parce que l'homme veut aller trop loin dans son pouvoir, parce qu'il craint cela, qui veut réparer et se préparer à être dans un état de soumission à l'égard de Dieu. Je crois qu'il y a toujours une idée de réparation dans le sacrifice. Vous voyez, le passage, autrement dit, de l'adoration au sacrifice. Comment se fait ce passage? Bon. L'adoration, la reconnaissance qu'on a vis-à-vis de la toute-puissance de Dieu comme créateur, bon, ça c'est naturel et direct. Mais la réparation à l'égard de notre orgueil, c'est naturel, hein, d'être orgueilleux. C'est pas naturel en ce sens que le péché n'est pas naturel, mais c'est naturel à notre condition humaine dans sa faiblesse. Nous n'arrivons pas à nous soumettre suffisamment à la volonté de Dieu. Alors, il y aurait comme une réparation. Et la réparation est naturelle. Hein. La justice est naturelle. Et il faut une réparation quand on est injuste à l'égard de l'homme. Et une réparation qui n'est pas commode à bien préciser. Il y a des péchés de mensonge. On peut attaquer facilement la réputation de quelqu'un par le mensonge. Et on doit donc réparer. Et on ne peut pas réparer entièrement une réputation brisée. Ça va beaucoup plus loin qu'on ne pense, parce que ça se dit. Et la réparation, elle est partielle. Donc, il y a une réparation par rapport aux injustices. Or, l'orgueil vis-à-vis de la soumission radicale dans l'adoration à l'égard de Dieu est toujours, hélas, limité par notre orgueil, qui veut maintenir des droits. Et réparer cet orgueil peut se faire par le sacrifice. Et c'est là où le sacrifice devient sanglant pour être une réparation plus parfaite. On a voulu dominer pleinement sur le monde des animaux. Et c'est vrai que l'irascible de l'homme facilement prend ses vengeances sur les animaux. On se retient vis-à-vis des hommes et on devient méchant vis-à-vis des animaux. C'est pour ça que être bon pour les animaux est toujours le signe d'une bonté radicale qui ne peut pas toujours se manifester à l'égard de l'homme. Il y a ça chez la bonté chez les animaux, qui est naturelle. Donc tuer un animal, il n'en peut rien ce pauvre d'être à l'état victimal. Donc offrir des animaux à Dieu ne peut être que comme réparation. Je crois. Et toujours pour réparer. À notre manière. Alors cette réparation est limitée, mais elle existe. Elle est bonne, parce que notre orgueil ne pourra diminuer naturellement que par des réparations. Quand vous demandez pardon à quelqu'un, vous faites une réparation. Et le pardon à l'égard du prochain est naturel. Parce que vous n'avez pas respecté son influence, n'avez pas respecté son honneur qu'il avait le droit d'avoir. Alors vous réparez en demandant pardon. Et le pardon peut aller jusque offrir à Dieu quelque chose de notre pouvoir sur les animaux et on lui offre. L'animal sert alors à ce moment-là de moyen de réparation. Et je crois que c'est naturel, ça. Naturellement, l'homme domine sur l'animal. Naturellement, l'homme peut se servir des animaux pour réparer. Il me semble. C'est difficile parce que cet état naturel n'a pas existé. Alors, on doit regarder par rapport à la nature humaine. La nature humaine, lorsqu'elle reconnaît la toute-puissance de Dieu, lorsqu'elle reconnaît l'adoration, peut réparer ses désirs, ses soifs de domination. Je crois. Donc, par la réparation, on aurait le pardon. Et le pardon a besoin, dans certains cas, de se concrétiser dans le sacrifice. Et ça exprime quelque chose de plus net. Puisque sans le sacrifice, la réparation risque de rester purement spirituelle. Or, les dégâts ont été matériels. Ont touché le point de vue de la renommée de Dieu du prochain. Donc on pourrait dire que le sacrifice des animaux peut se comprendre en partie, naturellement, comme réparation. Il y aurait donc deux réparations, une positive, la chasse, la virginité offerte à Dieu, en réparation vis-à-vis des abus de l'homme qui veut se croire au-dessus du droit du Créateur, et puis le sacrifice sanglant d'animaux. Je crois qu'on peut le soutenir. Si vous avez des objections là-dessus, il faut les noter. Parce que c'est assez délicat. Vous comprenez que nous avons un droit sur les animaux qui est limité. Les animaux sont soumis à l'homme, de sorte qu'il est normal pour l'homme de se défendre et donc de tuer un animal sauvage qui risque de lui faire mal. Ça, c'est un droit de défense. Et ce droit de défense peut aller jusqu'à le supprimer. Mais dans l'offrande, ce n'est plus un droit de défense. On offre une petite créature innocente. Et on l'a élevée pour cela. Donc ça exprime vraiment le pouvoir de l'homme naturel sur les animaux, et que ce droit, ce pouvoir naturel de l'homme sur les animaux peut très bien servir comme un moyen de réparation. C'est donc là que nous voyons la vertu de religion qui prend cette dimension particulière, dimension de soumission, et quand il y a eu des abus, de réparation, et qui peut très bien impliquer cette attitude par rapport à Dieu. On se soumet. Toujours dans la même ligne. Pouvons-nous, par rapport à nos limites, par rapport au malheur, par rapport au malheur, c'est-à-dire les maladies, ce qui touche notre corps et l'empêche de s'épanouir comme il pourrait s'épanouir. Bon, le mal, si vous voulez. Quelle attitude naturelle qu'il faut avoir à l'égard du mal. Le mal sous toutes ses formes. Avez-vous le droit de tuer quelqu'un qui vous agresse? L'homme n'a pas le droit de tuer son semblable. Avez-vous le droit naturel de vous défendre? Pour se défendre, il faut quelquefois et même souvent, attaquer. Et le premier, parce que les morts ne peuvent pas se venger, ils sont morts. Et avez-vous le droit de tuer, droit naturel, à l'égard de quelqu'un qui vous agresse? Ça, c'est le mal très radical. Quelqu'un qui est prêt de vous tuer. Alors, avez-vous le droit de le mettre, celui qui risque de vous attaquer, ou qui non seulement risque de vous attaquer, mais vous attaque? Avez-vous le droit de lui jouer un sale tour, de le mettre dans une impasse, volontairement, où vous pourrez vous libérer de lui. Le droit à la défense. Vous voyez que c'est toujours très délicat, parce que vous ne pouvez jamais savoir si l'autre, qui est un méchant par rapport à vous, il risque de vous tuer. On ne sait pas son aspect mauvais jusqu'où il ira. Il peut aller jusque-là. Alors avez-vous le droit de devancer ce mal qui peut aller jusqu'à la mort, le devancer en vous défendant par rapport à lui, de le supprimer. c'est le droit à une guerre juste, au point de vue personnel. Vous voyez, c'est assez délicat d'en voir les limites. Parce que vous risquez de lui faire du mal dans une manière beaucoup plus forte et beaucoup plus grande que le mal qu'il vous fait en réalité. Avez-vous le droit de devancer? Cet homme affirme des choses telles qu'il risque d'aller jusque-là, de me faire disparaître. Donc vous devancez le mal absolu qui est tué pour vous défendre. Alors vous allez dire, c'est une question de prudence. Oui, c'est une question de prudence et d'évaluation par rapport au danger. Parce que vous n'avez pas le droit, parce que vous avez peur d'être assassiné, d'être mutilé, de vous défendre d'avance. Il faut avoir des signes très nets de ça, que vous êtes en état de danger de mort. Vous voyez, le problème aussi devient très délicat. Parce que vous n'avez pas le droit, au nom de la défense, de pouvoir martyriser tous ceux qui risquent de vous faire mal. Se défendre contre un criminel jusqu'où ça peut aller, en droit naturel, en justice naturelle. En justice divine, c'est très net, aimez votre prochain. Mais en justice naturelle, jusqu'où peut-on se défendre? À l'égard de personnes qui nettement deviennent des ennemis, ou sont des ennemis d'une façon très proche. On touche à quelque chose de très grave et très important. Se défendre devant un agresseur, se défendre devant un criminel. Jusqu'où a-t-on le droit de se défendre ou de monter ensemble avec plusieurs personnes une possibilité de supprimer l'adversaire? On a le droit de se défendre, mais jusqu'où peut-on prévoir? Alors, je crois que là, ça devient très personnel, puisque c'est de l'ordre de la disposition. Vous avez le droit de vous défendre si vous êtes sûr, par exemple, qu'il vous attrapera, qu'il vous meurtrira et vous tuera. Vous avez sûrement le droit à la défense. Et vous n'êtes pas sûr qu'il désire vous attaquer jusque-là. Donc, on est là, là encore, c'est une question de prudence. Je n'ai pas le droit d'anticiper et donc je n'ai pas le droit de l'attaquer, parce que ce serait vraiment l'attaquer, pour me défendre. J'ai le droit de me défendre lorsque l'attaque existe, mais en prévision de l'attaque, est-ce que j'ai le droit ? Non. Je dois avoir des faits réels qui montrent que vraiment je suis en danger. Vous voyez, c'est au fond des cas de limite. Alors, jusqu'où ma limite, ma prudence peut-elle aller? Dans le bien, c'est très bien, je peux aller devant. Mais dans le mal, jusqu'où ma peur, ma crainte, peut-elle devancer le mal de l'autre? Alors, je crois là encore que on ne peut pas préciser. Chacun, on est dans le mal. Donc il n'y a pas l'universel. Chacun doit prudemment comprendre qu'il est en danger de mort, qu'est-ce qu'il peut faire. Autant que possible, ne pas répondre d'une manière qui devance quelque chose d'irréparable. Je crois qu'on n'a pas le droit de devancer le mal. Et on a le droit de, vu le mal imminent, de se défendre, et de se défendre même d'une façon violente. Et donc, ça dépendra énormément de la prudence. Et au fond, c'est la même chose pour toujours le mal. Je prends le mal de disparaître, d'être blessé dans sa vie, mais on peut regarder dans la même lumière tous ceux qui peuvent, d'une façon ou d'une autre, nous faire mal. Mal intellectuellement, mal spirituellement, mal à l'égard de l'affectivité. Je crois que là, on est en face de seul. Une prudence éclairée peut nous donner la vraie solution. Et cette prudence sera en fonction de la proximité du mal, plus ou moins grand. Donc il y a là une frontière qui est toujours très difficile à préciser. On peut simplement affirmer le principe, on a le droit à la défense. Mais jusqu'où ça peut aller, je crois que là, c'est très difficile. Et c'est la question de tuer un tyran. Au point de vue politique, au point de vue humain, un tyran qui risque de faire un mal énorme, il faut être sûr que ce tyran ira jusqu'à l'exécution. Ce qu'on ne peut jamais savoir, et avec sûreté absolue. Donc, c'est toujours très difficile. Je me souviens des cas qui ont eu lieu, que j'ai vu, et je prêchais une retraite, et la question m'a été posée, a-t-on le droit de tuer un tyran ? Alors, J'ai simplement rappelé ce que saint Thomas avait dit. Et c'était des jeunes. Alors j'ai reçu des lettres d'injure des pères qui avaient déformé ce que j'avais dit. Ce que j'avais dit, on a le droit à la défense. Oui. Alors la prudence, c'est toujours très délicat de savoir. Si vous avez affaire à un tyran, même ce tyran, vous le faites en fonction d'actes anciens. Et dans quelle mesure peut-on se servir d'actes anciens pour dire qu'il va faire ça encore maintenant? On est devant donc quelque chose qui est très délicat. Alors on peut et on doit affirmer le droit de la défense. C'est naturel, mais jusqu'où? Ça reste toujours quelque chose de relatif à la prudence. Et donc, c'est jamais quelque chose d'absolument net et précis. Il y a toujours un peu d'incertitude qui fait que si ça réussit, lui ça rate. Si ça réussit, si c'était vraiment ça, alors ça va. Si ça rate, on tombe dans le piège. Thank you.